Georges Fadou, qui depuis ton émission est devenu patrimoine de l'UNESCO. Je te remercie pour toutes tes émissions. Tu es vraiment une voix libre de France Inter. Bonne année à toute l'équipe et à très bientôt. Merci, Manuel Battista de Lyon.
Eh bien, bonjour Daniel. Je te propose de commencer l'année par une petite perle livrée par notre cher Sarkozy lorsqu'il vendait les subprimes. Écoutez bien, c'est rigolo.
Pour moi, il y a une première solution, c'est le crédit hypothécaire. Cela paraît très compliqué, c'est en réalité très simple. Eh bien, ça permet à 70% des Britanniques et des Américains, excusez le gros mot, mais c'est parce que j'en reviens, d'être propriétaires de leur logement, contre 56% en France. Dans ces deux pays, comprenez la Grande-Bretagne et les États-Unis, les crédits sont garantis par l'existence du bien, comprenez l'existence de l'appartement ou de la maison. En France, nous privilégions la garantie sur les personnes, ce qui conduit les établissements bancaires à écarter du marché du crédit tous ceux dont la situation professionnelle n'est pas assez stable pour assurer des revenus durables. Cette tradition est une injustice, elle est à mes yeux pas une fatalité, je souhaite la rupture avec cette tradition qui fait que pour obtenir un prêt, on doit avoir des relations. Je n'accepte pas cette injustice. Alors je propose de changer les règles prudentielles imposées aux banques, de simplifier le recours à l'hypothèque et d'en réduire le coût. L'hypothèque doit être encouragée dans notre pays. C'est simple, vous garantissez votre emprunt avec le bien que vous acquérez.
C'est un discours de Nicolas Sarkozy vantant les subprimes américains qui sont le déclencheur de la crise financière que nous vivons encore actuellement. Nous avons un sacré président, mon cher. Allez, salut, c'était Philippe, un humble forgeron.
Oui, salut les AMG, salut toute l'équipe de Daniel. J'entends ce matin sur les infos à 7h là, que les Français, selon les sondages, attendent des réponses claires de la part des candidats pour l'élection présidentielle. Eh bien, des réponses claires, moi j'en attends une seule réponse claire. Que la Banque Centrale Européenne nous prête à 1%, prête à 1% aux États, aux collectivités locales, bref, aux acteurs de la société, de façon à ce qu'on puisse mettre en place à nouveau une véritable politique d'hôpital, de services publics, d'énergie, etc., 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 et qu'elle ne prête pas à 1% aux banques qui nous reprêtent entre 3 et 7%. Voilà une proposition. C'était Didier de Gaillac. Ciao.
Et voilà une proposition pour commencer l'année. Merci pour vos vœux, chers AMG et AMGE, nous aussi, toute l'équipe de là-bas, si j'y suis, vous souhaite mille bonheurs pour cette année, cette nouvelle année 2012. Alors on était parti hein, pendant deux semaines, on s'est égayé dans la nature, on vous avait laissé toute une série de d'émissions qu'on vous a présentées, représentées, le meilleur de la basse J suite de 2012. Mais on va enchaîner avec ce sur quoi nous étions partis il y a deux semaines, c'est-à-dire l'économie, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse et nous passionne actuellement, nous et vous aussi, on l'a vu à travers le succès de ces deux émissions sur la dette, sur la dette publique notamment. Mais je voudrais revenir auparavant en quelques mots sur la base où j'y suis, puisque nous recommençons une nouvelle année et que nous en finissons une autre. Il faut vous dire quand même et vous rappeler que là-bas, si j'y suis, se porte bien et même très bien. On vous l'a dit, mais on va vous le redire. Selon la dernière enquête Médiamétrie, l'émission a battu en novembre un record d'audience historique avec 145 000 auditeurs nouveaux en un an. Vous êtes au total 558 000 à embarquer chaque jour. Oui, 558 000 à embarquer chaque jour pour là-bas si j'y suis à 15 heures. Et merci à vous tous. Et on a oublié de vous dire ce qui s'était passé après ces résultats Médiamétrie de novembre. Eh bien, toujours très amical avec nous, et avec tous d'ailleurs, mais spécialement avec nous, la direction de France Inter n'a pas manqué de féliciter chaleureusement toute l'équipe de la base J'y suis pour les prouesses de la réalisation, pour la qualité des reportages, pour l'esprit critique et l'indépendance de notre ligne éditoriale. Et la direction s'est écriée devant la foule rassemblée. Depuis 20 ans, vous dénoncez l'emprise de la dictature financière. Aujourd'hui, l'histoire vous donne tragiquement raison. Vous êtes l'honneur de cette maison. Les applaudissements n'en finissaient pas, toute l'équipe était émue, et les confrères surtout étaient là et avaient tenu à venir nous saluer, nous dire bravo, merci, c'est Bourdieu qui avait raison, vive Noam Chomsky, vive Frédéric Lordon, vive le monde diplomatique, vive les ouvrières de Moulinex, à bas le parti de la presse et de l'argent, et tête baissée, même certains à genoux, venait dire à quel point il s'était gravement fourvoyé, mais nous les avons rassurés avec Guy, avec Antoine, avec Pascal, Charlotte et tous les autres, et François, nous leur avons dit, avec nous, pas de chasse aux sorcières, pas d'épuration, même pas de camp de rééducation. Alors, il y avait les résistants de la 25e heure qui faisaient assaut de zèle. Alexandre Adler qui hurlait qu'on fusille Alain Minc sur le champ. Pour Jean-Marc Sylvestre, c'était tous ceux du Fouquet's qu'il fallait guillotiner sans jugement. Et tout modeste Martin Bouygues qui nous offrait les clés de TF1 en disant « c'est en vue de la renationalisation » et ajoutant la main sur le cœur « no pasaran ». Alors, tandis que le point levé, David Pujadas et Jean-Michel Apathy entonnaient l'international, personne n'avait remarqué, par une porte dérobée, le directeur de France Inter qui s'éloignait sur une simple mobilette, avec sa guitare sur le dos, après avoir laissé à son assistante un message pour dire qu'il reprenait son honnête chemin de chansonnier libertaire et qu'il était inutile de tenter de le faire revenir. Et c'est un vœu qui fut rigoureusement respecté. Et tout cela, chers AMG, grâce à vous. Alors, pour 2012, restons groupés et meilleurs vœux à tous. Meilleurs vœux à tous, et aujourd'hui, on va commencer, comme je l'ai annoncé, par nous relier avec ses préoccupations sur l'économie, et avec François Ruffin, on va assister, ça va vous passionner, à la remise du prix du livre sur l'économie. Ça, c'est passionnant, non ? Ça se passe au ministère de l'économie et des finances, il y a là un aréopage prestigieux de tous ceux qui quotidiennement pensent pour vous. Vous n'avez pas besoin de penser, ces experts pensent pour vous. Experts qui sont ces économistes de plateau, de télévision, qui viennent régulièrement. Ils sont très très peu nombreux, vous les connaissez, vous les reconnaissez. Vous dire qu'est-ce que c'est que cette économie. Ils sont généralement bardés de diplômes, ils écrivent force livres. Ils oublient parfois un petit peu de dire qu'ils ont des liens avec certains intérêts financiers, avec des banques, avec des fonds de placement divers et variés. Mais ils étaient là aujourd'hui et cette heure, nous allons la passer avec ceux que François Ruffin, qui est le reporter de ce sujet du jour, à appeler des économistes de garde. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, voilà, fidèle auditeur de la base J'y suis. Bon, d'abord, je présente tous mes voeux aux auditeurs, à tout le monde, donc mes voeux surtout de conscience, de confiance et de cohérence dans la vie. Et puis j'invite tout le monde, bon, moi j'étais levé assez de bonne heure ce matin sur France Culture, Les Racines du Ciel, avec Frédéric Lenoir qui anime cette émission, recevait Vivray, Patrick Vivray, Et j'invite vraiment tout le monde à écouter ce qui est dit en podcast, quoi, bien sûr, restez entre 7 et 8 heures ce dimanche 1er janvier 2012, tout est dit. C'est une synthèse de ce que tu nous dis aussi, ça éveille l'esprit, c'est extraordinaire. Et puis ça permet à chacun aussi de prendre ses responsabilités, je crois. Voilà, merci Daniel, merci pour tout ce que tu fais. Voilà, c'est Paul du Gers, agriculteur, au revoir.
Bonne année à tous, bonne année Daniel. Bonne année à toutes, bien sûr. Bilan de l'année dernière, j'ai appris un nouveau synonyme. Bouclier fiscal des riches égale l'écu des pauvres. N'oubliez pas d'aller voter. A plus.
Mon vœu le plus cher pour 2012, que le 2012 soit véritablement la fin du monde capitaliste. Meilleurs vœux à tous, bonne année et bonne santé. Julien du Pays Basque.
Alors là, Daniel, je me trouve devant le ministère de l'économie, devant le ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, au 139 rue de Bercy. Alors qu'est-ce qu'on vient faire là aujourd'hui? Bah écoute, c'est simplement que dans ma boîte mail Radio France, j'ai reçu un communiqué qui était la remise du prix du livre d'économie aujourd'hui à Bercy. Alors, quelle importance la remise du prix du livre d'économie, tu me diras. Bah écoute, Il y a deux choses qui m'ont surpris. La première, c'est que ce prix est remis des mains du ministre de l'économie lui-même, François Baroin. Donc voilà, c'est un premier gage, le premier gage d'indépendance. Donc on imagine que les livres sélectionnés vont bousculer l'orthodoxie qui est en vigueur dans les murs, va chahuter la politique du gouvernement. Mais surtout, ce jury du prix du livre d'économie est présidé par un certain Marc Ladré de la Charrière. Alors, qui est Marc Ladré de la Charrière? Donc, c'est un milliardaire français et c'est notamment le patron de Fitch Rating, l'une des trois agences de notation mondiale. Donc on imagine ce que ça signifie pour la liberté, l'indépendance, le débat démocratique quand le jury d'un prix du livre d'économie est présidé directement par un financier responsable d'une agence de notation. Donc voilà. On vient ici au ministère de l'économie aujourd'hui parce qu'on pense que c'est un bon lieu, un bon moment pour observer l'emprise de la finance, pas seulement sur l'économie, à la limite pas seulement sur la politique, mais aussi sur le débat intellectuel. Et aujourd'hui, je suis accompagné d'une stagiaire, Leïla Chaibi, du collectif de précaires L'Appel et la Pioche, qui avait choisi Marc Ladré de la Charrière pour la Nuit des Rapaces. Pourquoi tu avais choisi Marc Ladré de la Charrière pour la Nuit des Rapaces?
Parce que c'est un mec qui, derrière ses airs de grand humaniste, de petit frère des pauvres, c'est un mec, en fait, c'est le patron de Fitch Rating. Et Fitch Rating, c'est une agence de notation qu'on a été voir avec L'Appel et la Pioche, parce qu'il note entre autres l'UNEDIC, enfin, il note plein de trucs qui n'ont pas été notés par les marchés financiers. Et puis, c'est aussi le patron, enfin, c'est un gros financier, c'est le patron d'un groupe qui s'appelle Fimalac, qui s'amuse à racheter des boîtes et puis à les revendre à l'étranger en licenciant les salariés.
Donc il n'a pas été élu, ton rapace préféré?
Non, il n'a pas été élu, non. Puis là, c'était vraiment la bonne occasion d'aller le voir, parce que c'est la remise du prix du livre d'économie qui est remis par François Baroin et le président du jury, c'est Marc Ladré de la Charrière. Donc c'est quand même le symbole de la connivence entre ces financiers et ces politiques qui nous dirigent.
On va rentrer au ministère de l'économie. Excusez-moi. Pour aller au prix du livre économique, c'est par ici.
Salut, salut et bonne année à tous, c'est Daniel Mermet avec François Ruffin, économiste de garde.
Flight number 2, arriving from...
Je voulais vous remercier de votre présence. Je suis heureuse de votre fidélité à cette journée.
Prix du livre d'économie.
Et bienvenue ici.
8 décembre 2011, Luce Perrault.
Bienvenue à tous les auteurs, à tous les acteurs de la vie, de notre vie publique, qui, j'en suis certaine, vont vous aider à mieux décrypter notre société. Et puis, bien évidemment, il faut que je remercie tous ceux et toutes celles sans qui cette journée ne pourrait exister. et particulièrement les entreprises partenaires. Il y a bien évidemment FIMALAC et son président, Marc Ladret de la Charrière, qui a été le premier à mettre son carnet d'adresses et toute son influence à notre disposition pour créer cette journée. Il est le président de FIMALAC, mais il est aussi le président de la Fondation Culture et Diversité qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, je sais. Merci à Total, merci à EDF, merci à RTE, à la SNCF. Sans eux, rien ne serait possible. Et je dois dire que je suis fière que les plus grandes entreprises françaises...
Voilà, ainsi s'ouvrent à vous les portes de l'économie, chers AMG, en ce 7 décembre dernier. Donc, vous avez compris, se décernait ce livre de l'économie, le prix du livre de l'économie. Alors, s'agit-il d'un livre, par exemple, de Frédéric Lordon, ou un livre publié par le mouvement Attaque, ou par d'autres économistes atterrés? Eh bien non, ceux-là ne seront pas du tout présents, ni eux, ni leurs ouvrages. Et il ne sera pas non plus question de celles qui fâchent, la nationalisation des banques, la question du protectionnisme, la réindustrialisation, l'éclatement de l'euro. Toutes ces questions ne seront pas abordées parce qu'elles sont des questions hétérodoxes. Et là, on est dans l'orthodoxie économique. Pourquoi s'intéresse-t-on de plus en plus à l'économie ? Pour le commun des mortels, dont personnellement je fais partie, l'économie, des idées politiques, des philosophies même de la vie, des valeurs, de ce qui avait été décidé en commun à travers nos assemblées, à travers nos débats. Eh bien, on se disait comment mettre ça en œuvre, c'est bien beau tout ça, ces grands principes, ces grandes valeurs, mais comment les appliquer? Eh bien, par le truchement de l'économie. Disons que nous voulons une société plus juste et plus égalitaire. Eh bien, comment on va faire? Eh bien, on va utiliser le moyen qu'est l'économie pour réduire ces inégalités par en jouant sur les impôts, sur les taxes, sur la TVA, sur des moyens qu'offre l'économie pour appliquer, mettre en œuvre les grandes idées. Aussi, l'économie, dans l'esprit général, c'est un moyen et qu'on confie à des experts, effectivement, à ceux qui sont des techniciens qui mettent ça en œuvre. Or, le néolibéralisme qui triomphe aujourd'hui, comme nous savons, ce que tout le monde maintenant appelle carrément la dictature financière, a gagné ce pouvoir, a réussi à dominer en passant directement par l'économie, en laissant de côté la politique, les idées, les idéologies, et en allant directement sur l'économie, avançant ainsi masqué derrière cette science froide, truffée de chiffres extraordinairement complexes et d'un jargon qui ne l'est pas moins. Or, c'est ainsi que le néolibéralisme s'est imposé aussi. A-t-on fini par comprendre que c'était sur ces terrains-là qu'il fallait tenter d'aller, qu'il fallait tenter de déchiffrer et de comprendre? Et c'est ainsi que vous avez entendu de plus en plus d'émissions où nous invitions des économistes hétérodoxes comme Frédéric Lordon ou d'autres, et des reportages comme ceux qu'on a fait sur, par exemple, sur la BCE, sur la Banque Centrale Européenne, ou récemment sur la dette, sur la crise de la dette en Europe avec le CADTM. Donc voilà, il faut que nous sommes contraints d'aller sur ces terrains parce que ce sont bel et bien ceux de l'adversaire. Et ça, c'est pas du tout une petite émission marginale et bolchevique qui le dit. Ça se dit de plus en plus. Aujourd'hui,
les girouettes tournent. Ah, non pas que les girouettes tournent d'elles-mêmes, mais le vent tourne. Et ce constat que nous faisions il y a bien longtemps sur l'économie de marché, la critique de l'économie de marché, la financiarisation de l'économie, aujourd'hui, ça rentre de plus en plus dans les idées parce que c'est un constat que tout le monde peut faire, y compris ces experts qui servent depuis très très longtemps les intérêts de l'oligarchie, sauf que ça commence quand même à se voir et à s'entendre et à se critiquer, comme on va le comprendre dans le reportage qui suit, signé François Ruffin. Les économistes de garde.
Bonsoir. J'avoue que c'est assez difficile à avouer, mais je suis pro-capitaliste. C'est vrai qu'il fut une époque, j'aurais aimé être marxiste, mais quand on voit tout ce qui se passe, la tête des Russes, etc., ben le choix se fait assez rapidement. Je vois pas d'autre solution. Bon, c'est vrai que quand on se promène dans un supermarché, y a rien d'autre pour nous, quoi. Tout est là, y a juste à tendre la main. Donc, et voilà, quoi, c'est... C'est vrai que quand j'étais jeune, j'ai bien fait quelques manifs, bon, j'ai bien reçu quelques gaz lacrymogènes, mais il faut avouer que, au bout d'un moment, je préfère largement acheter des trucs tranquilles au supermarché, rentrer chez moi, regarder la télé, puis voilà quoi, c'est... Bon, les écolos, ça me dérange pas, mais j'ai une grosse préférence pour le burger double steak. Donc les salades de topinambour bouillies de choux, moi, très peu quoi, donc à partir de là le choix se fait assez rapidement. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, j'avoue, je suis pour le capitalisme, rien d'autre. Marx, c'est toi là-bas dans le noir ?
Vous êtes professeur à Sciences Po, et au sujet de cette table ronde, en 1995, c'était la régression démocratique, et plus récemment, en 2009, la société d'indifférence. Bon, on a un petit peu des rappels.
La salle, là, elle est bourrée de lycéens. Un public captif, puisqu'il a grosso modo pas l'autorisation de sortir, qui permet aux intervenants prestigieux d'avoir plusieurs centaines de paires d'oreilles et d'yeux devant eux.
Voilà, vous avez compris, on est à cette remise du prix de l'économie, 2011, 13e édition. On veut que cette remise de prix ait une valeur pédagogique, un rayonnement pour ouvrir à tous les portes de l'économie, mais les ouvrir d'une certaine façon, certaines portes seulement et pas d'autres, et on va voir comment tout cela est présenté et conduit avec ces économistes qui sont des sortes d'oracles multicartes qu'on voit se succéder avec un discours d'évidence prestigieux, intimidant, puisque toujours ces intervenants, ces... arrivent avec leur titre de noblesse, qui sont leurs titres universitaires, et qui nous débitent des propos qui, pour la plupart, sont difficiles à vérifier, puisque nous sommes, nous, chacun d'entre nous, des généralistes, et qu'eux sont des spécialistes. Et ce qui fait que, finalement, on s'aperçoit, à travers ces conflits d'intérêts qu'on va découvrir chez chacun d'eux, ou pour un certain nombre d'entre eux, on a un peu le sentiment d'être dans une situation, nous autres, d'insécurité intellectuelle. Il y a l'insécurité physique, il y a toutes sortes de formes d'insécurité, mais là, il se pourrait bien que nous soyons dans une forme d'insécurité intellectuelle parmi ces économistes de garde.
Alors, à la tribune, derrière la table basse, là, dans les fauteuils, il y a en ce moment Eric Israelevich, qui est le directeur du Monde. C'est lui qui anime la table ronde sur l'euro. Il a à côté de lui Daniel Cohen, qui vient d'être présenté comme professeur de sciences économiques à l'École normale supérieure de Paris, et qui est aussi à la Banque Lazare. Alors ces deux-là se connaissent bien, puisque Daniel Cohen est l'économiste qui est le plus cité en cette année 2011 dans les colonnes du journal Le Monde. Alors Le Monde, où Daniel Cohen siège au conseil de surveillance pour garantir son indépendance. Alors Daniel Cohen a aussi reçu le prix du livre d'économie. Alors le secrétaire général du prix du livre d'économie, c'est Serge Marty, qui était rédacteur en chef au Monde. Donc là, on voit qu'on a affaire à un tout petit monde où chacun s'appelle par son prénom, Eric, Daniel. Et dans ce tout petit monde, ben, y a des questions qui ne se posent plus. Les connivences sont devenues des évidences. C'est nous qui allons apparaître maintenant avec nos questions comme des malpolis dans cet univers de marbre et de parquet en bois tout à fait élégant. On va aborder des sujets assez peu élégants, des questions d'argent. Qui paye ? Tu connais la formule « qui paye l'orchestre choisit la musique ». Eh ben, c'est pareil pour le débat intellectuel. Qui paye l'orchestre ? Les Rothschild, les Lazare, les BNP Paribas. Et je pense que, très largement, ce sont eux qui, dans le débat intellectuel, qui, dans le débat économique, ici, dans les médias, choisissent la musique.
Ce matin, cours d'économie, Jean-Pierre Elkabbach avec l'un des meilleurs, Daniel Cohen.
Voilà, le meilleur ou un des meilleurs. Daniel Cohen, bonjour et bienvenue.
Europe 1, le 20 octobre 2009.
Vous avez remis hier un rapport, vous dites que la crise a détruit des emplois, mais beaucoup moins qu'en 1975 et en 1993. Elle a quand même détruit 400 000 emplois.
Elle a détruit 400 000 emplois, c'est évidemment considérable. Le taux de chômage va monter à 10%. Mais c'est vrai que pour une crise annoncée comme la plus grave depuis 1929, les destructions d'emplois sont relativement faibles. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, sans le savoir, la France a mis en place toute une série de dispositifs qui ont fait peut-être une des économies les plus flexibles du monde. Les heures supplémentaires en font partie, les primes variables en font partie, l'intérim qui est compté dans les destructions d'emplois et qui a été réduit de moitié en un an, tout ça, ça fait de notre économie une économie très réactive aux crises, ce qui fait penser que presque on vit en état de crise permanente, en réalité, davantage qu'on est frappé par cette crise.
Et je cite votre livre, La prospérité du vice, chez Albin Michel, c'est un grand succès de librairie et on comprend pourquoi.
Bonjour.
Oui, bonjour, je suis bien à la Banque Lazare.
La Banque Lazare, monsieur, oui.
Je cherche à joindre Daniel Cohen de la part de François Ruffin de France Inter, s'il vous plaît.
Oui, vous avez déjà appelé d'ailleurs.
Tout à fait.
J'ai laissé le message et je l'ai vu hier. Je l'ai relancé à ce sujet.
Et alors, quand est-ce que je peux le joindre?
Il faut lui envoyer un mail. Sur son BlackBerry. Voilà.
Merci, au revoir.
C'est pas vrai.
Bon, bah, Daniel, j'envoie un mail très simple à Daniel Cohen. Bonjour, monsieur Cohen, reporter pour France Inter. Je prépare une émission sur les connivences entre l'univers des économistes, de la finance et des médias. J'aurais une question à vous poser. Vous êtes pour l'année 2011, il me semble, l'économiste le plus cité dans le monde avec plus de 50 articles. Quelle en est, d'après vous, la cause? J'ai mes deux hypothèses. Un, le talent, vous êtes l'économiste le plus talentueux de France, voire d'Europe. Deux, deuxième hypothèse, Mathieu Pigasse, banquier de Lazare, est actionnaire du Monde. Vous travaillez vous-même à la Banque Lazare, vous siégez au Conseil de surveillance du Monde, ce qui fait de vous, effectivement, l'économiste le plus proche du quotidien de référence. Laquelle de ces deux hypothèses vous paraît la plus vraisemblable ? Vous remercions pour votre attention. Respectueusement, François Ruffin.
On n'est pas des cons, on n'est pas des cons, tenancés par les prévisions des experts financiers. On sentait venir que dans l'avenir, ça ne pouvait qu'être pire. Que les milliardaires ne pouvaient se satisfaire des 4/5 de l'univers. Propaganda, propaganda, faut-il se résigner ? Propaganda, propaganda, ne plus avoir d'idées. Propaganda, propaganda, faut-il suivre la voie des financiers? Propaganda, propaganda, gober leur vérité. On n'est pas des cons, on n'est pas des cons, des cons. Stadors des adeptes fanatiques de la loi du plus fort. Plutôt pacifique, pas trop porté sur le fric et demandant quelques efforts aux adorateurs du grand capital qu'ils refilent un peu de leur trésor. Propaganda, propaganda, faut-il se résigner? Propaganda, propaganda, ne plus avoir d'idées. Propaganda, propaganda, faut-il suivre la voie des financiers? Propaganda, propaganda, gober leur vérité.
Bon ben, j'attends dans la salle de presse, on est à côté de la pièce où délibère le jury, avec des journalistes de l'Expansion, des Échos, de Rue 89, du Monde, sous la houlette de Marc Ladré-Lacharrière, donc... qui est dans la salle, là, à côté, président-directeur général du groupe financier Fimalac et patron de l'agence de notation Fitch Rating, donc qui préside le jury du livre d'économie, là, à côté. Et à ma grande surprise, il n'y a aucun ouvrage sur la nationalisation des banques, encore moins sur le rôle des agences de notation qui apparaît parmi les nominés de ce prix.
Des questions qu'on peut se poser avec François Ruffin, en effet, et des réponses que nous donne Serge Marty. Serge Marty, c'est un éminent confrère, depuis longtemps collaborateur du quotidien Le Monde, et qui est président de l'Association des journalistes économiques et financiers, qui a été donc longtemps rédacteur en chef économique au Monde, et qui participe actuellement aux activités extérieures du journal Le Monde et qui donne un point de vue nuancé.
Monsieur Serge Marty, vous êtes président de l'Association des journalistes économiques et financiers. Vous êtes en train de délibérer dans la salle à côté. Vous êtes sorti quelques minutes pour moi et je vous en remercie. La personne qui va remettre le prix, c'est Marc Ladré-Lacharrière, qui est responsable d'une agence de notation. Par ailleurs, il va être remis également par le ministre de l'Économie et des Finances, François Baroin. Est-ce que c'est un gage d'indépendance pour les journalistes économiques et financiers que de voir leur prix au sein du ministère de l'Économie remis par l'un des dirigeants politiques? Le prix risque de pas bouleverser les dogmes ou la manière de voir du gouvernement actuel, ou par un financier comme Marc Ladré-Lacharrière?
Ah non, moi ça me gêne pas du tout parce que je connais le président en question. À chaque fois nous avons une majorité de confrères et de consoeurs qui s'expriment librement et les choix qui sont faits vraiment en connaissance de cause. Il s'avère que ce prix a été créé avec le soutien effectivement de Marc Ladré-Lacharrière qui par ailleurs a d'autres activités, notamment dans le domaine culturel et autres. Et ça ne nous fait ni chaud ni froid si je puis dire.
Mais ceci dit, dans l'ensemble les prix qui ont été remis, c'est plutôt orthodoxe. Il y a un certain nombre de prix qui sont remis à des économistes du cercle des économistes. Il y a eu un prix qui a été remis à Alain Minc. Il n'y a pas eu d'ouvrage qui, par exemple, revendiquerait aujourd'hui la nationalisation des banques, mettant en avant la démondialisation. Quand on regarde les titres depuis une dizaine d'années, ça semble assez cadré, quoi.
Oui, c'est un reproche assez justifié, sans doute. Ça veut dire, mais ça nous renvoie à nous-mêmes, c'est que les journalistes économiques et financiers, nous avons globalement été sensibles à un modèle de développement, à un modèle d'analyse économique qui était valable dans les années 80, 90, 2000, mais qui n'est plus nécessairement aujourd'hui, et on doit faire nous aussi notre autocritique.
Ce que vous voulez dire, c'est que le modèle néolibéral, il est passé par vous, consciemment ou inconsciemment, les ouvrages qui allaient en confrontation directe avec cette orthodoxie, oui, ils étaient marginalisés dans le prix, comme ils le sont un peu dans les médias.
Oui, je suis très franc avec vous. Il est indéniable que le modèle néolibéral a inspiré une grande partie, une majorité, je dirais, du monde journalistique, économique, et qu'il était jusqu'à présent assez difficile de faire passer des messages allant à l'encontre de ce qu'on appelait de la pensée unique, hein, pour être clair.
Alors, j'ai regardé dans l'économiste le plus cité en 2011 dans les colonnes du Monde, c'est Daniel Cohen. qui est cité, je crois, 52 fois dans les colonnes du Monde en 2011, qui est économiste à la Banque Lazare.
Bon, qu'il soit cité, autant de facultés. Bon, je reconnais que c'est un quelqu'un qui a su intégrer peut-être l'esprit du club aussi. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il a eu le prix à un moment, Daniel Cohen, au tout début, le prix du livre d'économie.
Par ailleurs, il est au Conseil de surveillance du Monde. Daniel Cohen.
Il fait partie des personnalités qui ont été choisies par les actionnaires. Hein.
Alors, quand on regarde en comparaison, quelqu'un comme Frédéric Lordon est cité 4 fois, quelqu'un comme Jean Gadret est cité 4 fois, est-ce que c'est la disproportion du talent qui fait que l'un est cité 52 fois? Est-ce qu'il vaut mieux siéger au Conseil de surveillance du Monde ou est-ce qu'il faut être dans l'orthodoxie?
Alors, je n'ai pas fait le calcul que vous avez effectué des citations des uns et des autres. Très franchement, ça n'a pas de rapport. Ce n'est pas parce que vous siégez au Conseil de surveillance que vous êtes cité dans le monde et que vous bénéficiez d'un droit d'entrée dans les...
Mais
tout simplement, ce que vous évoquez, c'est que ce sont les noms d'économistes qui ont eu, comme je l'évoquais tout à l'heure, un peu de mal à faire surface. Donc, voilà, c'est un processus. Je vous cite juste un seul exemple. Le projet de taxation sur les transactions financières, dont on débat à Bruxelles, à laquelle Sarkozy est favorable. Ça fait quand même 20 ans que c'est quelque chose qui a été présenté. Donc vous voyez ressurgir des idées sur, bien sûr, la place nouvelle de l'État, sur la nécessité de re-réglementer et pas de déréglementer comme des sauvages, sur la préoccupation des privatisations à outrance, sur des sujets qui étaient évoqués déjà à l'époque, je dirais, à la fin des années 80, mais en pure perte, puisque nous avons eu droit pendant 25 ans, 30 ans, à une financiarisation de l'économie, à une financiarisation de la planète, à une financiarisation des cerveaux. Parce que la crise que nous subissons, c'est une crise des cerveaux. C'est-à-dire que nous avons baigné dans ce consensus de Washington. Et voilà, il n'y avait que ça. À chaque fois, on vous disait, mais non, c'est la seule solution. Et puis voilà, et puis vous êtes un peu en arriéré de ne pas prendre ça en considération. Soit vous êtes un tiers-mondiste attardé, soit vous êtes... voilà. Et puis, moi, je me souviens, pour avoir couvert le Davos économique, le forum économique de Davos, vous aviez de l'autre côté le forum de Porto-Alegre. Donc, il y avait deux écoles. Et ceux de Porto-Alegre étaient considérés comme des débutants, comme des incompétents, etc. Il s'avère que les incompétents commencent à avoir des idées qui ont passé la rampe. Ce sont des idées qui progressent. Mais tout cela prend du temps. Le problème, c'est que pendant ce temps, l'économie, elle ne prend pas de temps pour se détériorer.
Voilà le camp des incompétents qui vous parle depuis 20 ans. À la base, j'y suis les arriérés tiers-mondistes. L'on peut être pas entièrement tort avec la critique de la pensée unique, l'idée des taxes sur les transactions financières, etc., etc. Mais la vie est lente et l'espérance est violente, cher Serge Marty. Donc on continue cette 13e journée du livre d'économie avec François Ruffin qui mène l'enquête. Il voudrait bien, François Ruffin, qu'on parle un petit peu de démondialisation, de protectionnisme, d'inflation, de la place de la BCE, enfin toutes sortes de choses qui l'intéressent. Et voilà qu'il rencontre Jean-Hervé Lorenzi.
Donc là, il y a Jean-Hervé Lorenzi qui s'exprime à la tribune. Donc il est généralement présenté comme président du Cercle des économistes.
Ouais.
C'est sa casquette officielle qu'il aime bien sortir. En vérité, il est à la banque Rothschild, membre du conseil d'administration d'Eramet, qui est un groupe minier métallurgique, à GFI Informatique, à BNP Paribas Assurance, au Page Jaune, à France Télécom, chez Wanadu, et ainsi de suite, ainsi de suite.
D'accord, ça va. Et à côté de ça, le Cercle des économistes est censé faire quoi?
Alors le Cercle des économistes, le titre est vachement bien choisi, parce qu'on a l'impression d'un truc académique ou universitaire presque officiel, tu vois, où ça serait les meilleurs économistes de France. En vérité, c'est une association privée, et à l'intérieur de laquelle on trouve Mathilde Lemoine de la banque HSBC, Patrick Artus de Natixis, Jean-Paul Bedbez du Crédit Agricole, et ainsi de suite. Donc finalement, enfin, Cercle des économistes, ça donne une façade présentable aux amis des financiers, finalement.
Biotechnologie et financement des entreprises innovantes.
Napster qui perd 31%.
La des plus fortes hausses aujourd'hui, bien Veolia Environnement.
Monsieur Alain Cotta, vous êtes professeur d'économie. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Le règne des oligarchies ». Pour vous, aujourd'hui, on vit ce règne des oligarchies ?
Absolument. Je pense que la démocratie est un mot qui me paraît emprunté de plus en plus au passé, de moins en moins au présent. La plupart des collectivités nationales du monde sont en régime oligarchique, qu'il s'agisse de la Chine, qu'il s'agisse de la Russie, et qu'il s'agisse des économies occidentales. D'ailleurs, nous voyons sur l'euro à l'heure actuelle, est-ce qu'on consulte les populations? Absolument pas. Disons qu'il y a une finance mondiale qui indiscutablement contrôle à l'heure actuelle tous les grands problèmes du monde, sans que personne n'y ait accès.
Monsieur Alain Cotta, vous avez été également membre de la commission trilatérale, donc qui réunit, on va dire, les élites européennes, américaines et japonaises. En tant que membre de la commission trilatérale, vous appartenez à cette oligarchie?
Oui, mais je ne... Bien sûr. La commission trilatérale a été créée par M. Rockefeller il y a plus de 40 ans. Et indiscutablement, la trilatérale était sous obédience américaine. Effectivement, c'était une espèce de bouillon cube de l'oligarchie, dans la mesure où il y avait effectivement ces quatre composantes, les grandes entreprises, disons, de la sphère réelle, et il y avait bien sûr présidents des grandes entreprises financières, pas tous, mais certains. Il y avait les milieux politiques et il y avait aussi, si j'ose dire, deux ou trois intellectuels de service.
Vous étiez l'intellectuel de service, hein?
J'étais un intellectuel de service, oui, bien sûr.
Et est-ce qu'une journée comme celle-ci, où le prix du livre d'économie est remis par le président d'une agence de notation, qui peut siéger au conseil d'administration de L'Oréal, avoir à côté des banquiers de JP Morgan...
Ça ne devrait pas se passer comme ça. Et j'ajoute que si vous regardez les prix qui sont décernés depuis une dizaine d'années, vous verrez très bien l'influence grandissante de ce que j'appellerais l'oligarchie néolibérale. Vous ne trouvez pas d'ouvrage de contestation? Non, les néolibéraux se sont engouffrés, n'est-ce pas, dans la disparition progressive de l'Union soviétique et du marxisme qui allait avec. Et vous les voyez intervenir partout, oui.
Y compris ici, c'est vrai que quand on ouvre, c'est quand même surprenant d'ouvrir une brochure qui est remise à l'intérieur du ministère de l'Économie et des Finances. Il y a un éditorial de Marc Lederer de la Charrière qui est responsable d'une société financière.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Je le connais personnellement. C'est un homme important qui indiscutablement fait partie de l'oligarchie. Oui. Et donc, il m'étonnerait que le prix aille à un contestataire...
Qui souhaite sortir de l'euro,
revendiquer... À un souverainiste ou à un marxiste de fond, voilà. Ah, le plus beau, tu es toujours pour l'euro.
Alors là, Daniel...
Tu es toujours pour l'euro.
Alain Cotta...
C'est pas possible.
...se tourne vers l'entrée de la pièce.
Tu es toujours pour l'euro. Scandale.
Où vient d'entrer... Jean-Hervé Lorenzi.
Tiens, vous parlez d'oligarchie financière.
Donc président du Cercle des économistes.
C'est un homme très intelligent. Et où est-ce qu'il est à l'heure actuelle? Ben, à la Banque Rothschild. Et voilà. Et je lui en veux pas, donc, à faire, hein, parce que nous vivons qu'une fois. Mais voilà. Qu'est-ce qui dirige vraiment?
Tu n'es pas journaliste.
Voilà, vous voyez. Demandez-lui ça.
Oh, on est bien là.
Alors, monsieur Jean-Hervé Lorenzi, comme le disait monsieur Alain Cotta, vous êtes à la compagnie financière Edmond Rothschild. J'ai relevé d'autres casquettes. Vous me dites si elles sont exactes ou pas. Membre du conseil de surveillance de la compagnie financière Saint-Honoré, conseiller du directoire de la compagnie financière Edmond Rothschild, membre du conseil d'administration Eramet, groupe minier métallurgique, c'est ça?
Oui, mais attendez, on va pas repartir sur.
Oui,
c'est pas le sujet. À part mes préférences sexuelles, je n'ai rien d'autre.
Ah, donc, quelles sont vos préférences sexuelles alors?
Voilà, je reste si j'ai. Non, on discute sérieusement parce qu'on a quand même la conjoncture économique personnalisée. Je trouvais que ça avait des parfums de un peu des années 30. On discute économie. Et pas des individus.
Mais enfin, je sais pas. Mais c'est quand même intéressant pour l'auditeur de savoir quelles sont les activités.
Vous voyez, j'ai fait plein de choses. Après, est-ce que je suis je ne suis pas d'un intérêt tel que on regarde les vies, ça.
Vous gagnez votre vie quand même avec Rothschild et puis tout ça.
Oui, mais la question est celle de savoir si vous avez vous aussi vous gagnez votre vie. C'est de savoir si la manière dont vous gagnez votre vie influence votre jugement. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas et objectivement, donc c'est en ça que ça n'a pas d'intérêt.
Vous pensez qu'il n'y a pas de conséquences sur les conseils d'administration au siège, les banquiers éventuellement qu'on rencontre,
moi,
les dirigeants de groupe?
Pour moi, non. Ça a eu une grosse influence pour essayer d'améliorer ma connaissance du monde économique. Mais aucune espèce d'influence. Il se trouve que par ailleurs, mais c'est comme ça, je ne suis pas quelqu'un d'argent, c'est comme ça. Mais je vous dis aux gens, mais je suis ravi d'avoir, si j'ai de l'argent, je suis ravi. Je me vois beaucoup de faiblesses dans l'existence, mais pas celle-là, ça n'a aucun intérêt. Vraiment aucun intérêt.
Mais alors, par exemple, est-ce que ça ne fait pas qu'il y a un certain nombre d'hypothèses économiques, la sortie de l'euro, le protectionnisme, la nationalisation des banques, qui, quand on siège à l'intérieur des conseils d'administration de banques ou de sociétés financières, ne viennent pas immédiatement quand même à l'esprit?
Je suis un chief économiste dans une banque qui est une banque de gestion d'actifs, donc qui n'a rien à voir avec les sujets de l'euro. J'ai pris des tas de positions, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Conflit d'intérêt, c'est exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire que vous êtes influencé par ce que vous faites, et ce n'est pas le cas.
Alors, dernière question. Le prix du livre d'économie est remis des mains du responsable, du dirigeant d'une agence de notation. Est-ce que ça vous paraît ?
Je ne suis jamais plus pour les uns et les autres en train de juger les gens. Je pense que ça n'est pas sain. Je trouve que c'est honteux. Les gens le jugent sur leurs idées. Alors, je me bagarre contre les agences de notation, mais pas contre Monsieur X. Jamais.
Non, il ne s'agit pas de se bagarrer contre lui, mais de trouver que quand un prix est remis des mains de...
Écoutez, on verra bien. Voilà. Je ne suis pas trop pour personnaliser les choses. Je ne suis pas favorable à ça. Ce n'est pas des bonnes attitudes à la vie.
Voilà la réponse de Monsieur Jean-Hervé Lorenzi à François Ruffin. Alors, on a beaucoup évoqué la figure de Marc Ladret de La Charrière, un personnage effectivement étonnant, une des plus grandes fortunes françaises. En tout cas, il a fait en 2007 son entrée dans le classement des milliardaires français, avec une fortune importante, mais il est également membre de l'Institut, chairman de Fitch Group Holding et Fitch Rating, on en a parlé, une agence de notation. Il est administrateur de Casino, L'Oréal, Renault, président du conseil de surveillance du groupe Euris, président du directeur, etc., de la Banque de France, des musées nationaux, de l'abbaye de Lumilac. Et à travers sa fondation Culture et Diversité, il a des partenaires tels que le Théâtre du Rond-Point et d'autres rencontres chorégraphiques internationales, etc. Et Magnum Photo. Donc ça donne un personnage, disons, à plusieurs visages et qui préside donc cette remise, cette 13e remise du livre économique, ce qui ne manque pas d'intéresser Leïla Chebbi.
Alors qu'est-ce que tu vas faire ? T'es venu pour faire quoi ici en fait ?
Tout à l'heure à la remise du prix, Marc Ladret de La Charrière et François Baroin, ministre de l'économie, vont remettre le prix du livre d'économie. On est venu avec un copain lui demander de se présenter aux élections présidentielles de 2012 plutôt que de se cacher derrière son étiquette de Fitch Rating. On s'est dit que ce serait plus simple qu'il soit carrément président de la République en fait. Puis c'est un peu à la mode en ce moment de mettre des financiers, des techniciens comme lui à la tête des États. On a vu que ça se passe en ce moment en Italie avec Monti.
En Grèce avec Papadémos.
Ouais, donc si la France veut préserver son AAA, je pense que Marc Ladret de La Charrière, c'est le mieux placé et c'est le mec qu'il faut mettre à la tête de l'État.
Pour la mise en place d'un gouvernement technique, donc, qui va rassurer les marchés.
Exactement, avec objectivité, impartialité, comme il sait faire. Hein. C'est déjà les agences de notation qui dirigent. Donc ça permettra juste de clarifier les choses, d'avoir Marc Ladret de La Charrière à la tête du gouvernement en France. Les choses seront plus claires, mais c'est en quelque sorte comme ça que ça se passe déjà. Quoi.
Et vous avez créé un Facebook, La Charrière Président 2012 ?
Ben non, en fait, on a créé pour l'instant le club de supporters, on est qu'à ses débuts. On commence à faire les goodies, on a des casquettes La Charrière 2012.
Les goodies ?
Des goodies, en fait, c'est les petits objets, les badges, les trucs que tu peux acheter sur Internet à l'effigie de ton candidat. Donc les badges, c'est en cours. Là, on a déjà pour l'instant les casquettes La Charrière Président. On a une petite banderole de supporters pour tout à l'heure. Enfin bon, on va lui mettre la pression pour qu'il se présente en 2012. Quoi.
Bon, bah écoute, bonne chance pour tout à l'heure. Alors.
Ben merci.
De nous annoncer le 13e lauréat du Covid. Monsieur le ministre, bienvenue chez vous et merci de nous accueillir. Donc j'ai l'honneur d'annoncer le lauréat. C'est qu'en dépit d'une concurrence qui a été farouche, mais naturellement,
Leïla arrive avec sa casquette La Charrière Président, avec la banderole La Charrière Président. Ça discute avec la direction de la com. La Charrière 2012, c'est inscrit sur leur casquette.
On est le comité de soutien de Monsieur Marc Lavré de La Charrière. Et on venait vous demander de vous présenter à la présidentielle en 2012. Parce qu'on pense que vous êtes le candidat idéal. Et étant donné que vous êtes le patron de Fitch Ratings, si on veut que la France préserve sa note, son triple A, on s'est dit que ce serait plutôt pas mal que vous soyez président de la République. Vous n'arrêtez pas de dire qu'il faut que la France continue dans les réformes structurelles qu'elle a engagées. Vous l'avez encore répété tout à l'heure, on ne travaille pas assez, la durée de travail hebdomadaire par semaine n'est pas assez élevée. Vous avez dit en 2010 qu'il fallait que les Français travaillent de 50 heures par semaine. Qu'il fallait toujours repousser de plus en plus l'âge de départ à la retraite. Donc vous faites de la politique, et nous on est votre comité de soutien, on voudrait que vous vous présentiez à la présidentielle, d'autant plus que c'est super à la mode en ce moment en Europe, quand on voit que les financiers vont à la tête des États, comme en Grèce avec Papademos, ou en Italie avec Mario Monti. Donc vous êtes vraiment, vous avez toutes vos chances, vous êtes le candidat idéal, et La Charrière, président.
La Charrière, président. La Charrière, président. La Charrière, président.
La Charrière, président. La Charrière, président. Là, ils sont copains, doucement évacué de la salle, poussé vers la sortie, sous le regard chargé d'incompréhension de Marc Lavré de La Charrière, qui sait pas trop si c'est du lard ou du cochon.
En effet, ça peut être la question à se poser pour demain dans Là-bas si j'y suis, la suite. C'était Les économistes de garde, une enquête de François Ruffin. Merci à tous, merci à Leïla Chebbi, Serge Marty, Jean-Hervé Lorenzi, Alain Cotta. Merci à tous. Et puis, vous le savez sans doute déjà, c'est le 11 janvier prochain que sort le nouveau film de Gilles Balbastre et Yannick Kerguat, Les nouveaux chiens de garde, d'après le livre de Serge Halimi, que vous connaissez bien. Donc on aura l'occasion de parler de ce film dans les jours prochains, ce qui n'est pas sans rapport avec le sujet du jour. Les plus malins et futés d'entre vous l'ont déjà compris. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission, là-bas si j'y suis, ainsi que sur le site la-bas.org. Et puis vous pouvez nous retrouver également sur la page Facebook de l'émission. Les ouvrages divers et variés des intervenants d'aujourd'hui seront sur la page France Inter. À la technique, Cédric Lalanne et Grégory Vallon. Bertrand Chometon et Franck Adhérère ont réalisé cette émission assistée de Marina Touillez et Grégory Salomonovitch, comme chaque jour. Attends vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Bonjour.
Bonjour.
C'est Rémi de Tabac Info Service. Je vous appelle pour faire le bilan de cette nouvelle semaine sans cigarette.
Eh ben, la semaine a été dure. Vous savez, je cherche un emploi et j'ai eu quelques entretiens. Ouais. J'étais stressé et j'ai eu du mal à résister.
Oui, je comprends. Quand on est fumeur, on a souvent l'impression qu'une cigarette soulage. Alors qu'en réalité, la nicotine entretient le stress.
Vraiment ?
Mais oui. Et d'ailleurs, il y a des moyens plus efficaces pour se détendre. On peut en parler aujourd'hui.
Pour arrêter de fumer, appelez Tabac Info Service au 39 89 15 centimes la minute et bénéficiez ensuite d'un suivi personnalisé gratuit par un tabacologue. 39 89, un service de l'INPES et du ministère de la Santé.
Voilà, et puis n'oubliez pas les repères de Là-bas si j'y suis, ça continue, ça marche bien. Vous avez dans votre village, dans votre quartier, l'idée qu'il y a peut-être d'autres auditeurs de Là-bas si j'y suis, de France Inter, que vous aimeriez rencontrer. C'est facile, vous trouvez un lieu, un bistrot, et puis vous nous contactez au 01 56 40 37 37 par exemple, et puis vous ouvrez ce lieu de rencontre ouvert à toutes les opinions et non pas des lieux de militance ou d'évangélisation politique quelconque. Il faut être très précis là-dessus. On en reparlera dans les jours prochains. À demain, 15h pour Là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Hélène Philly. Salut.
Les dernières révélations sur l'affaire Karachi suscitent de prudentes réactions pour le moment. Libération publie des PV d'audition dans lesquels un ancien haut fonctionnaire affirme que Nicolas Sarkozy, ministre du budget en 1994, a donné son aval à la création d'une société luxembourgeoise chargée de verser des commissions dans le cadre de contrats d'armement, notamment avec le Pakistan. C'est le volet financier de l'affaire Karachi. La justice cherche à savoir si ces commissions n'ont pas été au départ de rétro-commissions qui auraient financé la campagne présidentielle d'Edouard Balladur en 95. Un dossier complet sur l'affaire Karachi est à retrouver sur notre site franceinter.fr. Un dossier symbolique à 16 semaines de la présidentielle, la liquidation judiciaire de Cifrance et les 880 destructions d'emplois qui vont avec. Le gouvernement français décide finalement de soutenir le projet de reprise des salariés avec une SCOP, une coopérative ouvrière. La CFDT reste prudente et espère avoir rapidement plus de détails. Plusieurs réunions sont prévues cet après-midi. Il faut finaliser le projet avant l'audience de demain devant le tribunal de commerce de Paris. Petroplus est arrivé au bout de ses réserves. La raffinerie de Petit-Couronne près de Rouen ne peut plus acheter de pétrole brut et les craintes se concrétisent. Aujourd'hui, le groupe suisse suspend l'activité de 3 de ses 5 sites, dont le français. La mise à l'arrêt a commencé ce matin. Le PDG de Petroplus doit rencontrer aujourd'hui ou demain le ministre de l'Industrie, Éric Besson. Les salariés, eux, envisagent d'appeler au blocage des autres raffineries françaises pour faire pression. Un ralentissement important sur l'autoroute A6 en Côte d'Or, 10 km de bouchons après un accident impliquant 4 voitures au niveau de la commune de Toutry. Les secours viennent de dégager les voies, plusieurs personnes auraient été blessées. Les jours du régime syrien sont comptés. Bachar al-Assad et sa famille n'en ont plus que pour quelques semaines au pouvoir. Déclaration du ministre israélien de la Défense. Aujourd'hui, Ehud Barak avait déjà exprimé son désir de voir le régime chuter il y a quelques semaines. Israël est particulièrement concerné par la situation en Syrie. Les deux pays se bagarrent à propos du plateau stratégique du Golan, occupé par Israël en 1967, annexé en 1981 et dont Damas exige la restitution intégrale. Le seuil des 65 millions d'habitants franchis dans l'Hexagone, estimation que l'INSEE doit publier courant janvier et qui est annoncée dans le journal Les Échos aujourd'hui. En 10 ans, entre janvier 1999 et janvier 2009, la France aura donc gagné 4 millions d'habitants.
Tous les dimanches, okay. À 20h10,
ben voilà.
Le masque et la plume.
Il est sévère.
Non.
Jérôme Garcin.
Rien à ajouter, non.
Littérature.
Je ne l'ai pas accablé.
Attends une seconde. Cinéma. C'est ça qui est intéressant dans le film. Il nous renvoie
ça
une image.
Ça m'avait échappé.
Théâtre.
Laissez-moi terminer, Jacques.
Franchement, quand le rideau est tombé, on avait l'impression que ça allait commencer enfin.
Pour assister à l'enregistrement du prochain masque et la plume.
Pardon.
Oui, mais non.
Rendez-vous jeudi dès 19h dans le grand hall de la Maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. France Inter.
La différence.
Il est 16h03 sur Inter, le carrefour de l'Odéon. Frédéric L'Odéon, bonjour.
Bonjour, bonjour Hélène. Carrefour de l'Odéon. Meilleurs vœux pour une magnifique année 2012, enfin aussi belle que possible, avec une santé de fer. Et puis, on dit toujours avoir bon pied, bon œil. Moi, je souhaite une bonne audition, ce qui, évidemment, est plus facile si on n'épuise pas son oreille avant le temps en écoutant trop fort certaines musiques. Oui, l'intensité dépassant 100 décibels, c'est dangereux. Et puis, il faut répéter que c'est irrémédiable quand l'oreille interne est touchée. Après, on ne peut plus rien faire. Donc, pour pouvoir profiter des nuances du pianissimo au fortissimo. Restons raisonnables en ce qui concerne le volume. Et puis, ce matin, lors de service public, on a parlé de spiritualité et de religion. Et je pense toujours au chef d'orchestre Charles Munch, qui avait une proposition, vivre comme si on allait mourir ce soir et travailler comme si on devait vivre toujours. Mais Charles Munch était un grand monsieur et il a dirigé plein de choses différentes. Voici par exemple l'ouverture de La Princesse Jaune, c'est un opéra comique en un acte de Camille Saint-Saëns, un argument que est un peu fumeux, c'est le cas de le dire, puisque le héros prend de l'opium. Donc c'est Cornelis qui est amoureux d'une femme japonaise peinte sur un panneau accroché dans son cabinet de travail. Et Lena est exaspérée parce que, évidemment, elle aime le personnage en chair et en os, mais il va finir par se dégriser, par retrouver un petit peu la vérité et finalement se dire que toutes ces fumées, ça ne vaut pas une belle personne véritable. Ouverture de la Princesse Jaune, opéra comique de Camille Saint-Saëns, interprété par le Boston Symphony Orchestra, dirigé par Charles Munch. Sur Arte, ce samedi, on a eu une très belle après-midi, un moment délicieux, un long réveillon qui passait par la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pétersbourg, on a pu être magnifique, d'ailleurs superbe. À Leipzig, c'était un petit peu plus sérieux, un peu plus sobre, mais enfin bon. Et au Japon et à Leipzig, on a donné l'hymne à la joie. Et vous voyez, au Japon, 10 000 interprètes, c'était absolument incroyable dans un stade de bourré. En dehors des musiciens, il y avait aussi des spectateurs, comme quoi Beethoven partout est prisé. Et puis à Leipzig, c'est plus normal, bien sûr. Et là, une interprétation moins nombreuse, certainement, mais enfin de très belle qualité aussi. Donc cet hymne à la joie, c'est vraiment un morceau tout à fait rassembleur. Quelques vers de ce poème de Schiller, « Joie, belle étincelle des dieux, fille de l'Élysée ». Évidemment, il s'agit du paradis et non pas d'un bâtiment parisien. « Nous pénétrons avec un ardent enthousiasme céleste dans ton sanctuaire, ton enchantement unit de nouveau ce que les conventions séparaient. Tous les hommes deviennent frères là où plane ton son aile si douce.
Glory, the doctor,